Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons à l'étude numéro 11 de la série « Il est vrai que les mauvais esprits existent ». Nous sommes à la deuxième partie de notre étude, puisque j'ai dit qu'il y en aurait quatre, et nous commençons donc par quelqu'un qui a écrit de nombreux livres fort intéressants, reconnus dans le monde entier, le docteur Koch. Le docteur Koch, un Allemand, ses livres ont été traduits dans de très nombreuses langues. Il a labouré de part chez nous comme en terre de mission auprès de plus de 50 000 personnes. Ses livres sont très utiles, très proches des Saintes Écritures sur le sujet de l'oppression démoniaque et de sa délivrance que j'ai déjà évoquée. Je ne vois personne hésitant à conseiller ses ouvrages pour des gens soumis à la possession occulte. Bien que pas fanatique, je suis un charismatique, bien entendu, mais sans exagérer quoi que ce soit, en demandant au Seigneur de me garder avec une bonne dose de compréhension et d'être équilibré. Je crois que les dons de l'Esprit Saint incluent la prophétie, les miracles, la guérison et le parler en langue, et cela existe bien en nous aujourd'hui dans beaucoup de dénominations chrétiennes, et je fus le témoin de la guérison miraculeuse de nombreuses personnes des mains de Dieu, et cela uniquement par la prière. J'ai entendu des paroles de connaissance et de vérité, ainsi que des prophéties à haute voix. L'Esprit souffle bien. C'est précisément pourquoi Satan œuvre sans relâche à contrefaire. Vous avez bien entendu, il peut, et ses démons, ces esprits mauvais peuvent contrefaire les œuvres de Dieu par le biais de psychistes et de médiums. C'est tout ce que l'on doit attendre de lui. On ne s'étonnera plus guère de découvrir des spirites actifs dans toutes les confessions, y compris l'Église catholique, qui, du reste, ce n'est pas la seule. On sait que Jan Dixon, elle assistait à la messe tous les matins. Plus d'un miracle opéré dans l'Église catholique, tel que des statues de la Vierge qui pleurent et des statues sanguignolantes, des visions, des stigmatisations ont pu, là, on peut vraiment, tous les paroissiens de ces églises puissantes, ils ont pu distinguer des origines occultes. Ce à quoi on ne s'attendrait jamais, c'est évidemment d'être confronté à des contrefaçons diaboliques au cœur de cérémonies pentecôtiste et charismatique. On est donc très étonné, bien que ce que j'ai vu parfois me bouleversa profondément. Du reste, saint Paul nous a enjoint à désirer honnêtement le don spirituel, c'est vrai, et quand l'Esprit du Très-Haut se répand au sein de son peuple, on devrait s'attendre à ce qu'il fasse des merveilles, mais devant notre jalousie de la puissance de notre Seigneur au travail et notre demande bien trop pressante d'observer des signes, des merveilles et des prodiges, eh bien, bon nombre de nos frères et sœurs ont perdu leur discernement. Pourquoi, voyant en toute vision extatique, dans toute manifestation surnaturelle, hélas, la marque, pas toujours, du Tout-Puissant, mais des contrefaçons, et cela les a découragés. Nous avons donc subtilement laissé une partie de nous-mêmes dériver des solides objectifs fondamentaux venant de la doctrine divine, faisant la part beaucoup trop large au matérialisme sur quoi nous appuyons notre foi. Dans la seconde épître à Timothée, l'apôtre Paul dit aux jeunes disciples que toutes les Écritures sont inspirées par Dieu, profitables à l'enseignement pour reprendre, pour corriger et pour entraîner à la droiture afin que l'homme de Dieu, soit conformément instruit dans le but de parfaire de bonnes œuvres. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Et dans ce contexte, saint Paul, il exhorte ensuite Timothée à prêcher la sainte parole, être prêt à tout moment, réprouver, redresser, exhorter avec grande instruction et grande patience, car le temps viendra où ils ne supporteront plus d'entendre la saine doctrine, voudront que de douces paroles puissent chatouiller leurs oreilles, refusant d'autres maîtres que ceux qui abondent en leur sens et en leur volonté, détournant leur oui de la vérité et se réfugiant dans les légendes. C'est écrit dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 2 à 4, suivant les versions bibliques. Ça peut varier un synonyme pour en prendre un autre, mais donc c'est absolument la même chose. Ensuite, ils se détourneront, est-il dit ? Ils se détourneront de la révélation objective de la parole des vérités, basant leur croyance sur l'expérience, tournant et retournant la Sainte Bible en tous sens, jusqu'à lui faire dire ce qu'ils veulent. Et oui, c'est vrai. Et je vous donnerai maintenant le témoignage très sincère d'un pasteur qui maintenant, évidemment, est à la retraite. La première semaine de rentrée au lycée, au partage évangélique, j'accueillais la parole les bras ouverts. Je confessais mes péchés devant Dieu, demandant au Christ d'entrer dans ma vie en maître et en sauveur. Je sais me référant au terme même du Très-Haut, que je vivais une nouvelle naissance, alors je sentis dans mon âme l'assurance de mon salut, me donnant à lui de tout cœur. Et il continue son témoignage, mais je ne comprenais pas l'importance d'une étude attentive et systématique de sa sainte parole. Je n'avais aucune compréhension réelle de ma croyance et de son pourquoi. Et le temps passant, je construisis petit à petit ma relation avec Dieu basée sur uniquement l'expérience. Mes sentiments me renforçaient dans mon travail au nom de Jésus-Christ. Mon crucifix était et se trouvait sur l'autel. et les démons étaient chassés. Ma logique me montra bientôt que les vues de la Bible étaient, comme les œuvres humaines, un peu étroites, limitées d'erreurs et de mauvaises traductions, et j'en suis venu enfin à penser que le Messie était une voie vers son Père, mais que ce n'était pas la seule. Et doucement, petit à petit, je m'éloignais de cette vérité, prêtant alors involontairement l'oreille aux esprits de déception et à la doctrine démoniaque. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Mon ignorance, continue-t-il ce pasteur, mon ignorance de la doctrine divine entraîna la tristesse, puis enfant de Dieu voulant absolument connaître l'exactitude, j'ai enfin crié au Créateur pour la délivrance. Mais en raison de mon immaturité vis-à-vis du Seigneur et de ma profonde ignorance de sa doctrine, je nageais malheureusement en plein brouillard pendant bien des années, malgré toute ma sincérité. Donc, c'était un témoignage véridique d'un serviteur de Dieu. Voyez-vous, chers auditeurs et auditrices, il est possible d'être sincèrement dans l'erreur. Beaucoup parmi nous, dans l'Église, partagent l'idée que la sincérité est une sorte de protection magique contre les instruments, la déception démoniaque. Y a-t-il cependant un seul verset dans la Sainte Bible qui nous assure que notre sincérité seule peut suffire et peut protéger automatiquement contre la déception du démon? Il n'y en a pas un seul. Bien au contraire, les pages du Nouveau Testament sont pleines d'avertissements pour nous prévenir d'être d'esprit sobre et d'être toujours en alerte. 1er épître de Pierre, chapitre 5, verset 8, ainsi que Éphésiens, chapitre 6, verset 18, et de ne pas laisser quelqu'un nous décevoir par des mots creux, Éphésiens chapitre 5 verset 6, ni de nous permettre de nous enfermer dans des philosophies inutiles et dans le désespoir pour suivre les traditions humaines et les principes élémentaires du monde, plus que d'être en accord avec le Christ. Colossiens chapitre 2, verset 8. Donc, si la déception n'a plus prise sur nous, pourquoi donc remettrait-on sa foi en un esprit quelconque au lieu de le tester, oui, de le tester, pour voir s'il vient bien de Dieu? Notez 1er épître de Jean chapitre 4, verset 1. Donc Jésus-Christ également, il nous prévient que de faux messies et de faux prophètes se feraient jour, montrant de grands signes et prodiges, afin de tromper même l'élu si possible. Saint Matthieu 24, verset 24. Donc, l'apôtre Paul nous presse à revêtir l'armure de Dieu, que vous soyez fermes contre Satan, Éphésiens 6, verset 11, car il est effrayé par l'Église. Et ensuite, il y a 2 Corinthiens que vous pouvez noter, chapitre 11, verset 3, où il est dit « De peur que comme le serpent séduisit Ève par ruse, vos esprits risquent de se corrompre et s'éloigner de la simplicité et de la pureté dans la dévotion au Christ. » J'ai dit 2 Corinthiens 11, verset 3. Il peut arriver, chers amis, que je me trompe une fois d'une indication biblique. Je vous demande dans ce cas vraiment de bien vouloir me pardonner. C'est évidemment involontairement, car c'est parfois pas toujours facile de maîtriser tous les textes, et je peux évidemment une fois me tromper, car nous sommes que des humains, n'oublions jamais, imparfaits et limités, en tout cas moi. Il y en a qui le sont beaucoup moins, c'est vrai. Mais je ne fais pas partie de ceux-là, hélas. Je crains trop pour notre Église parce que je l'ai vu envahir d'une mentalité différente résultant de notre ignorance et ainsi que de nos défauts de discernement au sujet des dons de Dieu et des desseins de Satan. Nous manquons tous très souvent de discernement et je me trouve parmi ceux-là. Je vous prie ici, chers amis, de ne pas me mécomprendre. Mon idée est que l'Église charismatique vit en manifestant la puissance du Très-Haut et donc contre les agissements diaboliques et de tromperie et de contrefaçon qui sont donc dirigés contre nous. Ces termes ne constituent nullement une attaque, mais un avertissement désespéré pour s'amener à reconnaître l'aile du démon afin que nous soyons bien des témoins dans la toute-puissance et la grandeur de Dieu en ces derniers jours. Car actuellement, nombre de nos églises affrontent le danger de la contamination occulte. Il m'est impossible de parler du côté radiant du mal sans inclure ses excès dans le charismatisme ecclésiastique. Pour l'exemple, des chrétiens avec un passé de spiritisme auquel ils n'ont jamais totalement renoncé manifestent des dons et techniques médiumnistiques qui passent inaperçues dans l'atmosphère extatique et hippie qui imprègne souvent tant de rassemblements. On y voit par exemple des participants chrétiens pratiquant l'astrologie en cachette, la chiromancie par trop inconscient des dangers spirituels qu'ils encourent. En allant trop loin, ils comprendront tôt ou tard qu'ils ne cheminent pas en fait avec Dieu, en quelque sorte une réticence à lire et à s'abandonner simplement à sa sainte parole leur devient très difficile. Alors ils disent: qu'est-ce que je suis fatigué. Et il y en a même, quand ils ont lu quelques versets, s'endorment carrément sur leur Bible. C'est authentique, ou quand ils écoutent un culte, ils ne peuvent pas le suivre. Et pourtant, une fois dehors, ils sont maîtres de beaucoup de choses, mais pas pendant le culte. Là, ils s'endorment. Le sommeil devient pesant et ils ne peuvent pas lutter contre cet étrange assoupissement qui, nous le comprenons certainement tous, ne vient pas de Dieu, pour ne pas dire autre chose. Une noire dépression s'abat donc sur eux, les accablant de doutes sur le Très-Haut et sur le salut qu'il offre. Et dans les cas les plus graves, ils subiront peut-être l'attaque du démon. Ces symptômes de souffrance démoniaque ont évidemment plusieurs sources, toutes les dépressions ou doutes n'ont pas une origine diabolique, bien entendu, mais elles affectent bien souvent tous ceux qui ont un passé plus ou moins occultiste, ou qui simplement ont pensé, en lisant l'horoscope tous les jours, c'était pour m'amuser. Des dons médiumniques sont susceptibles de disparaître automatiquement lorsque l'on devient croyant. Prendre l'offensive contre le malin, établir la liste complète, oui, n'oubliez pas de faire cette liste de tous ces péchés-là et les confesser ouvertement devant le Seigneur, y renoncer totalement comme aux œuvres et dons de Satan, ainsi qu'à toutes ses pratiques, est donc une obligation. Mon opinion résolue, elle est que ceux portant un passé spirit devraient s'arrêter un bon moment avant d'approfondir et de faire fructifier plus avant les dons de l'esprit, et cela jusqu'à ce qu'ils aient mûri en grâce et en savoir dans le Seigneur. Si vous vous mettez trop rapidement à vouloir pratiquer les dons de l'Esprit Saint, eh bien, cela peut être une grande erreur, et c'est donc l'ennemi qui va rapidement s'emparer de vos dons, qui, soi-disant, vous pensez qu'ils sont de Dieu. Saint Paul, il nous dit que c'est un résultat de croissance en maturité aux mesures et aux dispensations et aux dimensions du Christ, que nous ne soyons plus comme des enfants roulés de gauche à droite comme par les vagues et emportés par tous les vents de la doctrine. Éphésiens chapitre 4, versets 13 et 14. Une nourriture solide est donc réservée à tous ceux qui ont mûri, pas qui veulent tout de suite avoir tous les dons de l'Esprit Saint, et qui par la pratique ont entraîné leur sens à discerner le bien et le mal. Hébreux chapitre 5, verset 14. Et il y en a tant d'autres entre nous du reste, qui très honnêtement et par amour veulent transmettre un don qui nous fut d'un grand bien, mais à quelqu'un d'immature dans le Seigneur, et sans considération pour les dons que notre Seigneur désire envoyer à la personne. Faisons donc attention de ne pas nous précipiter, de vouloir donner, accorder, transmettre, soit par l'imposition des mains, par la prière, etc., des dons à des qui nous les demandent trop rapidement, avec une volonté cachée qui est orgueilleuse et qui n'est pas celle que le Seigneur voudrait. Il y en a du reste qui vous disent, par exemple, ils vous disent « Levez-vous, parlez, et faites du bruit. » J'ai même entendu, tu ouvres ta bouche et tu formes des mots, n'importe quoi, et tu verras, continue ainsi, et vous verrez que le Seigneur en fera une langue ou un langage. Et j'ai vu d'autres initiés prononcer ceci, par exemple, priez le Seigneur, ou notre Père qui agit aux cieux, une centaine de fois dans un roulement aussi vite que possible, et au moment de buter sur les mots, arrêtez, priez le Seigneur et vous recevrez le don ou les dons que vous avez demandé. Cette sorte de chose est une insulte envers l'Esprit Saint et touche carrément au blasphème. Ne soyez pas trop pressés de recevoir les dons, car cela peut être pour votre mal et non pas pour votre bien. Faisons donc attention, ayons un peu de patience. Et plus fréquemment que de coutume, de telles manifestations se font dans un état extatique d'auto-hypnose, pas loin de ressembler à certaines formes de névrose clinique, voire à des désordres mentaux, effet de toute manière purement psychologique. Des experts patentés insistent fortement sur ce point-là. Et nous, charismatiques, sommes souvent très désappointés de nous exprimer en langue, puisque, après tout, tout le monde le fait. Et nous ne voulons surtout pas être laissés pour compte et paraître en défaut de spiritualité envers ceux à côté de nous. C'est donc une des caractéristiques fondamentales de la nature humaine que de chercher la prééminence entre égaux. Et certains confessent leurs mensonges passés à propos de leur vie spirituelle ensuite à l'excitation du moment. Et l'Esprit Saint n'a pas du tout aimé le mensonge d'Ananias et de Saphira, selon Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 1 à 11. Lisez cela tranquillement, Actes 5, versets 1 à 11. D'où l'on déduit la question: apprécierait-il aujourd'hui la fierté? Elle est plus forte que la destruction, et un esprit humble ne trébuche pas. Proverbe chapitre 16. Mais parfois les gens au passé spiritiste ou dotés de tendances médiumnistiques retombent et sont le jouet du démon. L'une des façons de transmettre des facultés occultes et l'imposition des mains, les personnes qui ont ces dons-là, notamment de parler en langue, de guérison, de prophétie, ont le pouvoir de transmission du don par simplement l'imposition des mains. Le docteur Koch, qui était reconnu comme étant un médecin et un enseignant théologique de première main et de toute honorabilité, dans son ouvrage où il a écrit, dans l'ouvrage « Conflit de langue », a fait l'intéressante observation que les personnes à tendance médiumnistique ont tendance à répondre beaucoup plus facilement à la sollicitation du parler en langue que d'autres. Il est tragique de les entendre affirmer que leurs dons viennent de Dieu. Ils ne sont pas forcément issus non plus du Saint-Esprit. Pour preuve, voyez-vous, les hindous, renseignez-vous, des millions de hindous arrivent à parler en langue. Ainsi le font les prêtres bouddhistes et shintoïstes en état de transe. Les pratiquants de religion niant la déité du Christ ont également cette pratique surnaturelle, comme beaucoup de Bantous du Transvaal en Afrique du Sud. J'ai même vu le faire des possédés et des médiums, nous affirme le docteur Koch. De quelle manière donc se permet-on de discerner l'origine et le pouvoir du Saint-Esprit dans une telle manifestation? C'est l'une des facultés la plus aisée à contrefaire et susceptible de tricherie, car le diable l'emploie pour que nous oublions le culte dû à un Dieu souverain, nous malmenons, nous distrayant, nous détournant du sentier et du vrai chemin. Il y a un nombre de brebis pleines de foi aux vies porteuses des fruits de l'esprit, réceptrices de la puissance du témoignage du Messie, qui n'ont jamais émis le moindre son en langue, croyez-le ou pas. Car beaucoup d'entre elles ou d'entre eux subirent le pesant fardeau d'autrui qui requiert ce que le Très-Haut n'a pas choisi de lui envoyer. Que cela vienne des hommes ou des anges, le don des langues, tout ceci résulte d'une volonté de l'Esprit-Saint distribuant à sa guise et selon sa volonté, 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28 à 30, ainsi que chapitre 14 verset 15 à 19, Hébreux chapitre 2 verset 4, et vous pouvez encore noter Romains chapitre 12 verset 3 à 8. Saint Paul nous admoneste selon dans ce contexte, et il dit « Frères, ne raisonnez pas en enfants, mais soyez tout des tout petits, sans la méchanceté, mais restez mûrs en pensée. » 1 Corinthiens 14, verset 20. J'ai pris cela d'une version anglaise. Chers amis, on ne peut baser son autorité des sentiments extatiques, une vision angélique des choses, ou se référer simplement au miracle ou à une esthétique existentielle, telle une preuve de fruits merveilleux ou de manifestation de la puissance dans nos vies, comme je l'ai déjà entendu, car ceci ne signifie rien en lui-même. La Bible dit que personne ne vous méprise donc, ne vous laissez pas ravir la palme qui doit couronner votre course par ses gestes, par ces gens qui font les humbles et qui voudraient vous entraîner dans leur culte des anges. Ils se rendent intéressants par des visions d'illuminés auxquelles ils donnent toute leur attention. Avec cela, ce sont de pauvres orgueilleux ridiculement enflés par leurs pensées matérialistes et charnelles. Ils omettent de s'attacher au chef, Colossiens chapitre 18, donc 2 Colossiens chapitre, non, Colossiens, excusez-moi, chapitre 2 verset 18 et 19. Je répète Colossiens chapitre 2. Versets 18 et 19. Je dois faire attention de ne pas m'embrouiller. Ces phrases présentent peut-être une apparence de sagesse, mais elles sont sans valeur contre les faiblesses de la chair. Les visions, elles incluent celles du Sauveur, et elles sont facilement imitées par le diable, que vous le croyez ou pas, tout comme les langues, les prophéties et la guérison. Pas un exemple, même en extase, qui soit le produit d'une maturité effective. Cette puissance s'infiltre dans notre quotidien par grâce du Saint-Esprit. Lorsque nous marchons en sa compagnie, soumis profitablement à son obéissance, et la puissance de cheminer dans la foi, de résister à la tentation, la puissance du ministère, du témoignage, la puissance qui est accordée à tout chrétien, qu'il ait parlé en langue ou non, je répète, qu'il ait parlé en langue ou qu'il n'ait pas parlé en langue. Il peut, elle peut, recevoir de nombreux dons qui sont encore bien plus utiles pour servir le Seigneur. La maturité, c'est le fruit de l'Esprit. Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Et le signe véridique de la présence de l'Esprit Saint dans la vie d'un croyant, c'est la maturité. Elle l'imprègne et elle le pénètre à la ressemblance d'un arbre qui surgit des courants même des eaux de vie. Et par ce fait, mon Père céleste est glorifié, afin que vous portiez beaucoup de fruits, et ainsi vous pouvez être mes disciples, est-il dit dans Saint Jean chapitre 15, verset 8. Je sais que les participants à des enseignements charismatiques traditionnels seront peut-être en désaccord avec ce que je viens d'avancer, mais si mes observations étaient peut-être correctes, et si vous vous retrouviez devant le Créateur pour vous être enferré dans vos erreurs, qui aura raison, puisque tant de gens sans don, sans aucun don de pouvoir parler en langue, ont représenté la puissance du Saint-Esprit dans leur quotidien. Pourquoi ferions-nous un dogme de ce sujet-là? Il y a des biographies de grands hommes de Dieu qui n'ont jamais parlé en langue. Car saint Paul, dans l'Épître aux Romains, traite de toutes les grandes doctrines, de toutes les vérités importantes et nécessaires au parcours chrétien des individus, mais ne mentionne pas l'expression en langue ni nul autre signe miraculeux ou don en tant qu'unique clé d'une puissance répandue dans nos vies. La foi dans les promesses de Dieu seul est absolument importante. Je ne veux pas dire par là que nous ne devons pas demander de parler en langue. Je ne dis pas cela, mais vous pouvez, si vous avez le temps, de consulter des nombreux ouvrages d'éminents serviteurs de Dieu et voire même des professeurs en théologie. Je ne parle pas de ceux qui croient rien, je parle de ceux qui ont été convaincus et qui ont donné leur sang et leur vie. Eh bien, vous verrez qu'ils n'ont jamais parlé en langue, mais qu'ils ont fait des choses extraordinaires pour le Seigneur, et ainsi que de très nombreux missionnaires qui ont donné leur vie dans des pays où ils étaient parfois même assassinés, et ils n'avaient pas parlé en langue, mais ils ont fait vraiment des choses extraordinaires, et ils ont été des témoins, des outils, pour que des nombreuses âmes ont pu être sauvées. Saint Paul aurait-il omis de nous livrer dans cet important traité la clé du service et de la vie en le Créateur? Le Créateur ne nous met pas en main un serpent ou un scorpion en récompense de notre sincérité. Le Seigneur a promis le bien à tous ceux qui le demandent, Saint Matthieu chapitre 7 verset 11. Saint Jean ajoutant une nouvelle assurance par ces mots, il suffit que nous demandions suivant sa volonté et non pas selon notre désir et notre orgueil. Premier épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 14. Et il faut conserver ses commandements et faire des choses qui lui sont agréables. Saint Jean, ou plutôt premier épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 22. Veut-il que nous manquions de discernement, mais pas du tout. Est-il agréable à sa vue que nous, tels des enfants volontaires, requérons une force supplémentaire de ses mains et des dons, laissant le chaos et la confusion régner dans nos vies? Ressent-il de l'agrément à contempler ses enfants dépourvus du don de langue, paraître en état d'infériorité, à la fois déficiente et faible devant lui? J'ai vu personnellement, et je l'ai connu, un fermier, donc un paysan, comme on dit en Suisse, qui était foncièrement chrétien et qui avait cherché le parler en langue plus que toute chose. Et un jour, pourtant, il a quitté sa femme et ses enfants pour partir au Canada avec une jeune femme qui avait des dons de prophétie. Et cela l'a tellement impressionné qu'il s'est dit, celle-ci, c'est ce que Dieu veut pour moi. Or, il a oublié que 30 ans de mariage avec des enfants et une ferme et des responsabilités était quand même quelque chose de grave de quitter tout cela. Et vous avez compris que ça ne pouvait pas être une inspiration divine. Un autre, très très aisé financièrement, qui avait une place en vue, un peu semblable à cette histoire épouvantable de Dédesca, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous, il était chrétien, donc d'une église fondamentaliste, qui ne parlait pas en langue, d'accord, mais il avait une vie très sérieuse et harmonieuse avec sa femme et avec son fils. Et un jour, il est allé dans une communauté pentecôtiste un peu extraordinaire ou exagérée. Et là, il a fait la connaissance d'une jeune fille qui était de l'âge de son fils. Et il a quitté sa femme. Tout cela devrait nous donner à réfléchir. Moi, ça m'a donné à réfléchir. Évidemment, on peut fermer un œil puis dire « c'était peut-être quand même la volonté de Dieu ». Alors là, je ne veux pas du tout rentrer en discussion. Dans notre zèle, nous avons fait de notre don souvent un tas de fagots morts. Saint Paul dit encore « désirez sincèrement le don le plus élevé », 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31 et chapitre 14, verset 1. Mais cela n'implique pas qu'il projette d'accorder un signe particulier à quiconque ou tous les dons à chaque chrétien. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28 à 30 et Hébreux chapitre 2, verset 4. Bien sûr, il y en a qui vous diront, demandez carrément tous les dons, Dieu se doit de vous les accorder. Moi, je ne vois pas où c'est écrit que Dieu nous doit. C'est plutôt nous qui lui devons tout. En tout cas, moi, le commandement de souhaiter un don est une adresse générale pour l'Église, pour la communauté chrétienne, non tournée vers un individu en particulier. Nos requêtes doivent être d'un cœur sincère, sachant que dans son amour souverain, il distribuera ses dons, il fera des signes selon sa volonté. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Il n'est point nécessaire de plaider, de demander le don plus que la grâce, parce que c'est dans sa nature de nous l'accorder. Il ne nous commande pas de parler en langue, mais préférerait que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ en premier et nous aimions les uns les autres. Premier épître de Jean, chapitre 3, verset 23. Nous devons le chercher, le Tout-Puissant, et cela en tout premier. Il nous fut dit de mettre les esprits à l'épreuve du test. Les mots, paroles de la première épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 1, eh bien, ces mots ne sonnent pas en une requête aimable, ni à de l'amorosité. Bien-aimé, ne croyez pas tous les esprits et mettez-les à l'épreuve afin de voir s'ils sont vraiment de Dieu, parce que beaucoup de faux prophètes sont de par le monde dispensateurs de signes, de merveilles et de miracles, toujours à l'affût pour vous vendre le bon article. N'éteignez pas le feu de l'esprit, c'est vrai. Ne dépréciez pas les appels prophétiques, mais examinez tout avec précaution. Vérifiez si ce qu'on vous dit est exact. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 21. Au sujet des habitants de Bérée, il est dit que leur esprit était plus élevé que celui des habitants de Thessalonique, car ils reçurent la parole avec une grande ferveur, examinant journellement l'Écriture sainte pour voir si elle était véridique. Actes, chapitre 17, verset 11. Ils testèrent donc tout simplement les paroles, les mots de saint Paul, en les comparant aux paroles de Dieu pour vérifier la vérité apportée par le Créateur. Ces authentiques prophètes ont toujours osé entreprendre des recherches prudentes, selon la première épître de Pierre, chapitre 10, première épître de Pierre, chapitre 1, versets 10 et 11. Je me suis presque trompé. Et tout cela sur les révélations de l'Esprit-Saint. Pour terminer, chers amis, je dirais comment vivre si l'Église ne reconnaît pas ses faits et se repent pas devant le Seigneur, induisant un retour à la pureté du corps, souillé par l'erreur et les fausses doctrines. Les conflits et les factions nous déchireront, nous perdrons notre sel. Comment, si nous le perdons, pourrons-nous alors rejoindre un monde qui périrait étranglé par la fausseté de l'occultisme, portant en lui la glorieuse évidence de notre victoire en Jésus-Christ? Les spirites se sentent actuellement très à l'aise dans nos réunions, car ils sont dans l'idée d'apercevoir la chute de l'Esprit-Saint. Ils serrent ainsi leurs mains, ils se donnent la main, voyez-vous, surtout quand il y a la prière. C'est une sorte de technique ayant une aura manipulatrice, tombant en transe et disant des mots de connaissance à l'image d'un clairvoyant officiant dans un centre de spiritualistes. Donc faites attention, il n'est pas dit que se donner la main et d'être en cercle dans l'église ou dans votre communauté chrétienne en pensant que ça va faire descendre l'Esprit Saint avec toute sa puissance et à vous donner tous les dons de l'Esprit. Il faut faire très attention à toutes ces choses-là, parce que ça peut être une technique manipulatrice, même s'ils ne vous le croyaient pas. Ils imaginent Dieu de nous demander des performances immédiates, telles les magiciens de magie blanche, aussi utilisateurs du nom de Dieu, et même, croyez-le ou pas, du nom du Christ et du Saint-Esprit dans le rituel. Ils s'imaginent que l'on aboie comme des chiens dans l'esprit, que l'on est soulevé de terre par des forces invisibles en faisant croire que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et pour eux, le parler en langue n'est que babillage confus, chacun y criant à qui mieux mieux, alors que le Seigneur n'est pas sourd. Il n'est pas sourd. Pour eux, nous sommes encore en train d'imposer les mains pour des guérisons comme eux, sans aucun discernement ou discrimination de confession, ni de repentance, surtout pas de repentance pour le péché qui pourtant règne partout. Jacques chapitre 5, versets 14 à 17. Son commandement ne nous enjoint pas à parler en langue, ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas le demander. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il préfère notre foi dans le saint nom de son Fils bien-aimé Jésus-Christ et l'amour en son prochain. Premier épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 23. Dieu est très capable d'apprécier justement notre attitude vis-à-vis d'un don. Quelle serait donc la meilleure façon d'appeler un occultiste à la repentance? Dans un climat de confiance envers le Dieu vivant et saint, où les fantômes ne trouvent pas place, le Tout-Puissant n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix, et ainsi en est-il dans toutes les églises saintes. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Cela n'attriste pas l'esprit, ni l'offusque ou offusque le Très-Haut, de mettre de l'ordre, oui, de mettre de la discipline et de l'ordre dans les cérémonies. Ainsi le pensait du reste l'apôtre Paul, saint Paul. Il a dit « Si quiconque pense être prophète, qu'il prenne conscience que ce que je vous écris sont des commandements du Seigneur. Mais quiconque ne reconnaît pas ceci n'est pas reconnu. Donc, frères et sœurs, désirez sincèrement la prophétie et ne vous interdisez pas le parler en langue, mais faites que toute chose soit faite honnêtement et de manière sincère. 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 37 à 40. Chers amis, nous allons terminer, si vous le bien, voulez bien, par la prière. Prions. Seigneur, nous achevons encore une journée. Nous sommes plus près du terme de notre vie que nous l'étions au matin. Chaque heure qui s'écoule est un pas de plus fait vers la tombe et l'éternité qui nous attend. Cette pensée devrait être celle de tous nos instants, afin que nous en puissions avoir un cœur sage et que nous ne vivions pas pour ce monde seulement, mais à ce moment où nous nous prosternons devant toi elle doit saisir encore plus vivement nos âmes et nous rendre attentifs et sérieux. Dans peu d'instants, nous irons nous étendre sur notre couche et le sommeil fermera nos yeux. Mais un jour qui peut-être est bien prêt pour chacun de nous, nous nous y étendrons encore et là, pour ne plus nous relever, la mort glacera nos membres et les rendra immobiles, nos yeux se fermeront pour ne plus se rouvrir qu'au jour redoutable de la résurrection. Ô Dieu, que la certitude de cette heure solennelle nous fasse dès maintenant recourir à ta grâce et au salut que tu daignes nous offrir, que ce soit pour mourir avec espoir, avec confiance et paix, que nous vivions dès à présent, car savons-nous à quelle heure notre âme devra paraître devant toi. Puisse donc la pensée de notre dernier sommeil toujours occuper nos âmes lorsque nous allons nous livrer au repos. Esprit Saint de paix et de pureté, viens pour agir dans nos cœurs et les garder par ton pouvoir. Esprit de vérité, dissipe nos doutes, nos craintes et subjugue notre incrédulité. Esprit consolateur, apaise nos souffrances, adoucis nos afflictions, ôte à nos larmes l'amertume qui déchire le cœur. Seigneur, aie pitié de nous et attire-nous à toi. Sauveur de nos âmes, sois notre appui et dans la vie et dans la mort. Nous nous remettons avec un abandon filial entre tes mains divines. Dispose de nous selon ta volonté, mais préserve-nous du malheur de t'offenser. Que toutes choses, même les songes de la nuit, concourent à nous rapprocher uniquement de toi. Dieu tout bon, protège tes faibles enfants et bénis-les dans ta miséricorde. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et la série continue encore, et cela peut être important pour certains d'entre vous, pardon, et de vous aider à vous affermir dans la foi, dans la fermeté à pouvoir résister maintenant à tout ce qui nous entoure de pas toujours très bien et très bon. À bientôt à nouveau, chers amis. Au revoir.